La chose auquel je crois le plus, mon credo, le mobilier ontologique que j'achèterais si j'en avais vraiment les moyens intellectuels, ce sont les automates cellulaires. Je crois profondément que le monde est une machine de ce type, un automate cellulaire. Les automates cellulaires, selon le point de vue où l'on se place, ça peut être une sorte de jeu pour la dernière page des vieux journaux papier entre les mots croisés et les énigmes d'échecs, sauf que les pièces seraient de simples cases activées et éteintes en fonction de l'état des cases voisines, ou bien c'est la révélation des derniers secrets de l'univers. La démonstration éblouissante qu'avec des règles et un matériel simplissime, on peut retrouver, par itérations successives, le niveau de complexité merveilleuse du monde connu et inconnu, un paradis réductionniste, quelques gouttes de sang sur le rasoir d'Occam. Bizarrement, alors que j'ai découvert les automates cellulaires avec le jeu de la vie vendu avec Windows 95, je n'y ai jamais joué, faute d'en comprendre les règles bêtement écrites en anglais. J'ai compris mon erreur 10 ans plus tard en découvrant la puissance intellectuelle du jeu, utilisée comme argument métaphysique dans un livre du philosophe matérialiste Daniel Dennett. Tous les paradoxes du déterminisme étaient résolus dans ces automates. Désormais convaincu que j'en étais un moi-même, je n'ai plus cessé dès lors d'aller à la rencontre de mes semblables. Premier automate cellulaire connu, celui d'Ulam et de von Neumann, les deux calculateurs prodiges du projet Manhattan. Ces machines, capables de s'engendrer elles-mêmes, étaient plus inquiétantes que la bombe, mais rassurantes aussi, en cela qu'elles pourraient, elles, facilement lui survivre. Plus singulière contribution au monde des automates cellulaires, celle de Turing, l'inventeur de l'ordinateur, qui les utilisa en 1952 pour expliquer la morphogenèse, l'idée que les itérations successives à l'œuvre dans les processus chimiques pouvaient engendrer, au lieu du gris opalescent de la goule d'encre diluée dans un verre d'eau, des structures sophistiquées et complexes, les taches du léopard, les doigts infinis du gecko, les neurones fascinants des humains. L'automate cellulaire le plus connu, enfin, est celui qu'inventa Conway en 1970, le jeu de la vie, et qui fut largement diffusé sous forme de programme informatique. Son bestiaire n'a pas fini de grandir du modeste planeur, 5 cases couplées entre elles pour traverser l'écran en diagonale, à cette implémentation géniale d'un ordinateur primitif au sein de la grille elle-même. Le jeu de la vie pouvait désormais jouer au jeu de la vie, et je ne pense pas être le seul pour lequel cela a représenté l'issue la plus probable du darwinisme et une révélation quasi mystique sur les pouvoirs divins de la machine. Un génie anglais controversé, Stephen Wolfram, entreprenait dans le même temps, en se prenant pour un nouveau Newton, de réécrire toute la science existante dans le langage universel des automates cellulaires. On attend toujours la traduction française de A New Kind of Science et de ses pages merveilleuses où son automate cellulaire, livré à lui-même, a dessiné des systèmes karstiques plus lumineux que les fonds des tableaux de Vinci. J'ai échangé autrefois avec celui qui avait entrepris de traduire ce livre. Il exerce comme plongeur professionnel dans les calanques marseillaises et je suis certain que ni la grotte de Cassis, ni l'Atlantide elle-même, s'il la découvrait soudain, ne serait plus vaste et plus prodigieuse que ces pages en noir et blanc parsemées de cavernes. Les automates cellulaires ne sont pas seulement un jeu mathématique, ils sont un aperçu, je crois, d'un paradis possible pour les âmes comme les miennes, hantées par le dieu barbare du réductionnisme et qui se refusent absolument à croire que le monde pourrait être intrinsèquement divers. Chesterton, avec toute son inconfortable bienveillance, avait pourtant essayé de nous prévenir. Si le monde ne possède qu'une seule loi, alors c'est qu'il ne s'est jamais rien passé et qu'il ne se passera jamais rien, autant dire qu'il n'y a jamais eu de monde. Et pourtant, en véritable sectateur des automates cellulaires, quand Chesterton donne sa démonstration la plus serrée de l'existence de Dieu, j'ai l'orgueil étrange de ramener sa vision à la description anachronique d'un automate cellulaire. Si la fin du monde doit être un clair-obscur artistique et raffiné, il faut qu'elle comporte un dessin humain ou divin. Avec le temps, le monde pourrait noircir comme une vieille peinture ou blanchir comme un vieux manteau, mais s'il se transforme en une œuvre d'art singulière en noir et blanc, c'est qu'il y a un artiste, disait Chesterton. Pas forcément.